Chapitre 15. Nous mangeons au jour le jour, vendant de vieux livres ou quelques haillons. Ma misère est telle que je n'en ai plus conscience, et que je m'endors le soir presque satisfait lorsqu'il me reste une vingtaine de sous pour les deux repas du lendemain. Je suis allé dans plusieurs administrations solliciter une place. On m'a reçu fort brusquement. J'ai cru comprendre que j'avais le tort d'être pauvrement mis. J'écris mal, dit-on. Je ne suis bonne à rien. Je les crois sur parole, et je me retire, honteux d'avoir eu un instant la pensée de voler l'argent de ces honnêtes gens, en mettant à leur service mon intelligence et ma volonté. Je ne suis bon à rien. Telle est la vérité que j'ai retirée de mes démarches. Je ne suis bon à rien, si ce n'est à souffrir, à sangloter, à pleurer ma jeunesse et mon cœur. Ainsi, me voilà seul au monde, repoussé et misérable, n'osant mendier et me sentant plus affamé que le pauvre qui tend la main. Je suis venu, bercé en un songe de gloire et de fortune. Je m'éveille en pleine boue, en pleine détresse. Heureusement, le ciel est doux et bon. Il y a dans la misère une sorte d'ivresse lourde, une somnolence voluptueuse qui endort la conscience, la chair et l'esprit. Je ne sens pas nettement mon degré d'indigence et d'infamie. Je souffre peu, je sommeille dans ma faim, je me vautre dans mon oisiveté. Voici quelle est ma vie. Le matin, je me lève tard. Les matinées sont brumeuses, froides, blafardes. Le jour entre, grise et triste, par la fenêtre sans rideau. Il se traîne mélancoliquement sur les carreaux et sur les murs. J'ai une sensation de bien-être à sentir la chaleur tiède des vêtements que j'entasse sur le lit. Laurence dort à mon côté d'un sommeil de plomb, la face renversée et muette. Moi, les yeux ouverts, le drap au menton, je regarde le plafond noir que traverse une longue crevasse. Je tombe en extase devant cette crevasse. Je l'étudie. J'en suis amoureusement du regard les lignes brisées. Je la contemple des heures entières sans songer à rien. C'est là le meilleur instant de la journée. J'ai chaud et je dors à moitié. La chair est contente, l'esprit court mollement dans ce beau pays du demi-sommeil où la vie a toutes les voluptés de la mort. Puis parfois, lorsque je suis complètement éveillé, je m'abandonne aux bras de quelque songe. Frère, que mon pauvre cœur doit être enfant pour que je puisse encore lui mentir. Eh oui, je rêve toujours, j'ai toujours cette puissance étrange d'échapper à la réalité, de créer, de toutes pièces, un monde et des êtres meilleurs. Là, entre deux draps sales, aux côtés d'une femme laide et honteuse dans son écrasement, au milieu d'une chambre obscure, je vois, souvent de mes yeux, un palais, tout marbre et tout argent. Une amante blanche, lumineuse, qui me tend les bras, m'appelle à sa droite sur la couche de soie où elle repose. 11 heures sonnent, je saute du lit. Le froid humide des carreaux qui me glace brusquement la plante des pieds me tire de mon rêve. Je me sens grelotter, je me couvre à la hâte. Puis je marche dans la chambre. Allant de la fenêtre à la porte, jetant un coup d'œil sur la muraille qui est tout mon horizon, et revenant regarder Laurence sans la voir. Je fume, je bâille, j'essaie de lire, j'ai froid et je m'ennuie. Laurence s'éveille. Alors commencent les souffrances. Il faut manger. Nous tenons conseil. Nous cherchons par la chambre quelque objet à vendre. Souvent, nous renonçons à déjeuner quand le problème est trop difficile à résoudre, et tout est dit. Lorsque nous avons trouvé un vieux chiffon, du papier, n'importe quoi, Laurence s'habille et va offrir la déplorable marchandise à un revendeur qui lui donne 8 ou 10 sous. Elle rapporte du pain et un peu de charcuterie, que nous mangeons debout sans nous parler. Les journées sont longues pour les misérables. Quand il fait trop froid et que nous n'avons pas de feu, nous nous recouchons. Lorsque le temps est plus doux, j'essaie de travailler, me donnant la fièvre à vouloir faire une besogne qui ne veut plus de moi. Laurence se renverse sur le lit ou se promène à pas lents. Elle traîne sa robe de soie bleue qui semble pleurer en se froissant au meuble. Cette guenille est toute jaune de graisse, toute déchirée, craquée aux coutures, usée aux plis. Laurence la laisse se pourrir et tomber en loque, sans la nettoyer ni la raccommoder. Elle la met dès le matin, n'ayant qu'elle, et elle se promène ainsi le jour entier dans cette chambre misérable, les cheveux dénoués, portant une robe de bal largement décolletée qui montre son dos et sa gorge. Et cette robe, cette soie douce d'un bleu pâle qui brille encore par endroits, est un haillon infâme, tordu, fané, lamentable. Il y a je ne sais quelle angoisse poignante à voir ces lambeaux d'un riche tissu, ce luxe traîné dans la misère, ses épaules nues rougies par le froid. Toujours, je me rappellerai Laurence marchant ainsi vêtue dans le bouge de mes 20 ans. Le soir, la question du pain revient, terrible et pressante. Nous mangeons ou nous ne mangeons pas. Puis nous nous couchons, las et endormis. Le lendemain, la vie recommence. Pareille, plus cuisante et plus âpre chaque jour. Je ne sors plus depuis une semaine. Un soir, nous n'avions pas mangé la veille, j'ai ôté mon paletot sur la place du Panthéon et Laurence a été le vendre. Il gelait, je suis rentrée en courant, suant à grosses gouttes de peur et de souffrance. 2 jours après, mon pantalon a suivi le paletot. Me voici nue. Je m'enveloppe dans une couverture. Je me couvre comme je puis, et je prends ainsi le plus d'exercice possible pour ne pas laisser se roidir mes jointures. Lorsqu'on vient me voir, je me couche, je prétends être un peu indisposée. Laurence paraît souffrir moins que moi. Elle n'a pas de révolte, elle ne tente pas de se soustraire à l'existence que nous menons. Je ne puis m'expliquer cette femme. Elle accepte tranquillement ma misère. Est-ce dévouement? Est-ce nécessité? Moi, frère, je vous l'ai dit, je suis bien. Je m'endors. Je sens mon être se fondre. Je me laisse aller à cette prostration douce des mourants, qui demande pitié d'une voix faible et caressante. Je n'ai aucun désir, si ce n'est de manger plus souvent. Je voudrais aussi être plein, être caressé, être aimé. J'ai besoin d'un cœur. Chapitre 16. Oh, frère, je souffre, je souffre. Je n'ose parler. Je sens la honte me serrer à la gorge et je ne puis que pleurer sans ôter de mon cœur le poids qui l'étouffe. La misère est douce, l'infamie est légère. Et voilà que le ciel me punit, qu'il me courbe sous un vent terrible, sous une implacable blessure. Maintenant, frère, vous pouvez désespérer. Je n'ai plus de degrés à descendre. Je viens de m'abandonner au gouffre. Je suis perdu à jamais. Ne m'interrogez pas. Je laisse mes cris aller jusqu'à vous, car la douleur est trop aiguë pour que je parvienne à étouffer mes cris. Mais je retiens les paroles sur mes lèvres. Je ne veux ni vous effrayer ni vous désoler en vous contant l'effroyable histoire de mon cœur. Dites-vous que Claude est mort, que vous ne le verrez plus, que tout est bien fini. Je préfère souffrir seul, quitte à en mourir, que de troubler votre sainte tranquillité en me déchirant devant vous, en vous découvrant ma plaie saignante. Chapitre 17. Non, vous souffrirez, mais il m'est impossible de garder le silence. Je trouverai quelque consolation à me montrer à nu. Je m'apaiserai lorsque je saurai que vous sanglotez avec moi. Frère, j'aime Laurence. Chapitre 18. laissez-moi regretter, laissez-moi me souvenir, laissez-moi revoir toute ma jeunesse dans un regard. Nous avions 12 ans alors. Je vous rencontrais un soir d'octobre dans le préau du collège, sous les platanes, près de la petite fontaine. Vous étiez chétifs et timides. Je ne sais ce qui nous unit, notre faiblesse peut-être. Depuis ce soir, nous avons marché ensemble, nous séparant pour quelques heures, mais nous tendant la main avec plus d'amitié après chaque séparation. Je sais que nous n'avons ni le même corps ni le même cœur. Vous vivez et vous pensez autrement que moi, mais vous aimez comme moi. Là est notre fraternité. Vous avez mes tendresses et mes pitiés. Vous vous agenouillez dans la vie, vous cherchez à qui donner votre âme. Nous communions en tendresse et en affection. Vous rappelez-vous nos premières années? Nous lisions ensemble des contes à dormir debout, de grands romans d'aventure qui nous tenaient 6 mois sous le charme. Nous faisions des vers et de la chimie, de la peinture et de la musique. Il y avait chez l'un de vous, au 3e étage, une grande chambre, notre laboratoire et notre atelier. Là, dans la solitude, nous commettions nos crimes d'enfants. Nous mangions le raisin accroché au plafond. Nous risquions nos yeux au-dessus des cornues chauffées à blanc. Nous rimions des comédies en 3 actes, que je lis encore aujourd'hui lorsque je veux sourire. Je la vois, cette grande chambre, avec sa large fenêtre, inondée de lumière blanche et pleine de vieux journaux, de gravures foulées aux pieds, de chaises dépareillées, de chevalets boiteux. Elle m'apparaît douce et riante lorsque je regarde ma chambre d'aujourd'hui et que j'aperçois, au milieu, se dresser Laurence qui m'effraie et m'attire. Plus tard, le grand air nous enivra. Nous eûmes la saine débauche des champs et des longues courses. Ce fut une folie, un emportement. On brisa les cornues, on oublia le raisin, on ferma la porte du laboratoire. Le matin, nous partions avant le jour. Je venais sous vos fenêtres, vous appeler en pleine nuit, et nous nous hâtions de sortir de la ville, carnier au dos, fusil au bras. Je ne sais à quel gibier nous chassions. Nous allions, flânant dans la rosée, courant au milieu des hautes herbes qui se couraient avec des bruits secs et pressés, nous vautrant dans la campagne comme de jeunes chevaux échappés. Le carnier était vide au retour, mais la pensée était pleine, et le cœur aussi. Quelle contrée puissante, âpre et douce pour ceux qui se sont pénétrés de ses ardeurs et de ses tendresses. Je me souviens de ces aubes blanches et humides, presque fraîches, qui mettaient dans mon être et dans les horizons une paix de suprême innocence. Je me souviens de ces soleils accablants, de cet air embrasé, lourd, éclatant, qui écrasait la terre, de ces rayons larges qui coulaient des hauteurs, comme de l'or en fusion, heure virile et forte, donnant au sang une maturité précoce et à la terre des entrailles fécondes. Nous marchions en braves enfants au milieu de ces aubes et de ces soleils, jeunes et légers le matin, plus graves, plus recueillis le soir. Nous causions en frères, partageant le même pain, éprouvant les mêmes émotions. Les terrains étaient jaunes ou rouges, déserts et désolés, semés d'arbres maigres. Ça et là, des bouquets de feuillage, d'un vert sombre, tachant la grande étendue grise de la plaine. Puis, tout au fond, tout autour de l'horizon, rangées en cercles immenses, des collines basses, dentelées, d'un bleu tendre ou d'un violet pâle, se découpant avec une netteté délicate sur l'azur dur et profond du ciel. J'ai encore sous les yeux ces paysages pénétrants de ma jeunesse. Je sens bien que je leur appartiens, que le peu d'amour et de vérité qui est en moi me vient de leur tranquille passion. D'autres fois, vers le soir, lorsque le soleil déclinait, nous prenions la grande route blanche qui conduit à la rivière. Pauvre rivière, maigre comme un ruisseau, là resserrée, trouble et profonde, ici agrandie et coulant en nappe d'argent sur un lit de cailloux. nous choisissions un des trous au bord d'une berge élevée que les eaux avaient creusée, et nous nous baignions sous les arbres qui étendaient leurs rameaux. Les derniers rayons glissaient entre les feuilles, semant les ombrages sombres de trouées lumineuses, et venaient se poser sur la rivière, en larges plaques d'or. Nous n'apercevions qu'eau et verdure, que de petits coins de ciel, le sommet d'une montagne lointaine, les vignes du champ voisin. Et nous vivions ainsi, dans le silence et la fraîcheur. Assis sur la rive, dans l'herbe fine, les jambes pendantes, les pieds nus effleurant l'eau, nous jouissions de notre jeunesse et de notre amitié. Que de beaux rêves nous avons faits sur ces berges, dont le flot chaque jour emporte quelques graviers. Nos rêves s'en vont ainsi, emportés par la vie. Aujourd'hui, les souvenirs sont durs et implacables pour moi. À certaines heures, dans mon oisiveté, brusquement, un souvenir de cet âge m'arrive, aigu et douloureux, avec la violence d'un coup de bâton. Je sens une brûlure me traverser la poitrine. C'est ma jeunesse qui s'éveille en moi, désolée et mourante. Je me prends la tête entre les mains, retenant mes sanglots. Je m'enfonce, avec une volupté amère, dans l'histoire des jours passés. Et j'ai plaisir à agrandir la plaie, en me répétant que tout cela n'est plus et ne sera jamais plus. Puis, le souvenir s'envole. L'éclair a passé en moi. Je demeure brisé, ne me rappelant rien. Plus tard encore, à l'âge où l'homme s'éveille dans l'enfant, notre vie changea. Je préfère les heures premières à ces heures de passion et de virilité naissante. Les souvenirs de nos chasses, de notre existence vagabonde, me sont plus doux que la lointaine vision des jeunes filles dont les visages restent empreints dans mon cœur. Je les vois, pâles et effacées dans leur froideur, dans leur indifférence de vierge. Elles ont passé, ne me connaissant point, et aujourd'hui, lorsque je songe encore à elles, je me dis qu'elles ne peuvent songer à moi. Je ne sais, cette pensée fait qu'elles me sont étrangères. Il n'y a pas échange de souvenirs, je les regarde comme de pures pensées, comme des rêves que j'ai caressés et qui s'en sont allés. Laissez-moi me rappeler aussi le monde qui nous entourait, ses professeurs, braves gens qui auraient pu être meilleurs s'ils avaient eu plus de jeunesse et plus d'amour, ses camarades, les méchants et les bons, qui étaient sans pitié, sans âme, comme tous les enfants. Je dois être une créature étrange, bonne seulement à aimer et à pleurer, car je me suis attendrie, j'ai souffert dès mes premiers pas. Mes années de collège ont été des années de larmes. J'avais en moi les fiertés des natures aimantes. On ne m'aimait point, car on m'ignorait, et je refusais de me faire connaître. Aujourd'hui, je n'ai plus de haine. Je vois clairement que je suis née pour me déchirer moi-même. J'ai pardonné à mes anciens camarades qui m'ont froissée, blessée dans mon orgueil et dans ma tendresse. Les premiers, ils m'ont donné les rudes leçons du monde, et je les remercie presque de leur dureté. Il y avait parmi eux de tristes garçons, des sots et des envieux, qui doivent être aujourd'hui des imbéciles parfaits et de méchants hommes. J'ai oublié jusqu'à leur nom. Oh, laissez-moi, laissez-moi me rappeler. Ma vie passée, en cette heure d'angoisse, m'arrive dans une sensation unique de pitié et de regret, de douleur et de joie. Je sens mes entrailles profondément remuées lorsque je compare tout ce qui est à tout ce qui n'est plus. Tout ce qui n'est plus, c'est la Provence, la campagne largement ouverte, inondée de soleil. C'est vous. Ce sont mes pleurs et mes rires d'autrefois. Tout ce qui n'est plus, ce sont mes espérances et mes rêves, mes innocences et mes fiertés. Hélas, tout ce qui est, c'est Paris avec sa boue, ma chambre avec sa misère. Tout ce qui est, c'est Laurence, c'est l'infamie. Ce sont mes tendresses pour cette femme. Écoutez, c'était, je crois, en juin. Nous étions au bord de la rivière, dans l'herbe, la face tournée vers le ciel. moi, je vous parlais. Je viens de me rappeler mes paroles. Ce souvenir m'a brûlé. Je vous confiais que mon cœur avait besoin de pureté et de virginité, et que j'aimais la neige parce qu'elle était blanche, que je préférais l'eau des sources au vin parce qu'elle était limpide. Je vous montrais le ciel, je vous disais qu'il était bleu et immense comme la mer, clair et profond, et que j'aimais la mer et le ciel. Puis je vous parlais de la femme. J'aurais voulu qu'elle naquît pareille aux fleurs sauvages, en plein vent, en pleine rosée, qu'elle fût plante des eaux, qu'un éternel courant lava son cœur et sa chair. Je vous jurais de n'aimer qu'une vierge, une vierge enfant, plus blanche que la neige, plus limpide que l'eau de source, plus profonde et plus immense en pureté que le ciel et la mer. Pendant longtemps, je m'épanchais ainsi en vous, frissonnant d'un saint désir, avide d'innocence, de blancheur immaculée, ne pouvant arrêter mon rêve qui montait dans la lumière. Je la possède, ma vierge enfant. Elle est là, et je l'aime. Oh, si vous pouviez la voir. Elle a un visage sombre et fermé, comme un ciel couvert. Les eaux étaient basses, et elle s'est baignée dans la fange. Ma vierge enfant est souillée à ce point que jadis je n'aurais osé la toucher du doigt, crainte d'en mourir. Je l'aime. Tenez, je ris, je goûte un charme étrange à me railler. Je rêvais le luxe et je n'ai plus même un morceau de toile pour me couvrir. Je rêvais la virginité et j'aime une femme impure. Dans ma misère, lorsque mon cœur a saigné et que j'ai compris qui il aimait, ma gorge s'est serrée, l'épouvante m'a pris. C'est alors que les souvenirs se sont dressés. Je n'ai pu les chasser. Ils sont restés là, implacables, en foule, tumultueux, entrant tous à la fois dans ma poitrine qu'ils brûlaient. Je ne les ai pas appelés, ils sont venus et je les ai subis. Toutes les fois que je pleure, ma jeunesse revient me consoler. Mais ces consolations redoublent mes larmes, car je songe à cette jeunesse qui est morte à jamais. Chapitre 19. Je ne puis me taire, je ne puis me mentir à moi-même. J'avais résolu de me cacher mon mal, de paraître ignorer ma blessure, espérant oublier. On tue quelquefois la mort en son germe lorsqu'on croit à la vie. Je souffre et je pleure. Sans doute, en fouillant en moi, je vais trouver quelque lamentable certitude. Mais je préfère tout savoir que de vivre ainsi, affectant une insouciance qui me coûte tant d'efforts. Je veux connaître à quel point de désespoir je suis descendue. Je veux ouvrir mon cœur et y lire la vérité. Je veux pénétrer jusque dans les dernières profondeurs de mon être pour l'interroger et lui demander compte de lui-même. C'est bien le moins que je sache comment il se fait que je suis infâme. J'ai le droit de sonder ma plaie, au risque de me torturer et d'apprendre que j'en dois mourir. Si, dans cette rude besogne, il m'arrive de me blesser plus que je ne le suis, si mon amour grandit en s'affirmant, j'accepte avec joie cette douleur plus grande, car la vérité brutale est nécessaire à ceux qui marchent librement dans la vie, n'obéissant qu'à leurs instincts. J'aime Laurence et j'exige de mon cœur l'explication de cet amour. Je ne l'ai pas aimé tout d'un coup, comme on aime dans les histoires. Je me suis sentie attirée peu à peu, dissous, pour ainsi dire, rongée et couvert en quelques jours par l'horrible plaie. Aujourd'hui, je suis pris tout entier. Je n'ai pas une fibre de ma chair qui n'appartienne à Laurence. Il y a un mois, j'étais libre. Je gardais Laurence comme on conserve un objet que l'on ne peut jeter à la rue. Maintenant, elle m'a lié à elle. Je veille sur elle. Je la regarde dormir. Je ne veux pas qu'elle me quitte. Ceci était fatal, et je crois comprendre comment l'amour est entré en moi. Dans la souffrance et l'abandon, on ne vit pas impunément aux côtés d'une femme qui souffre comme vous, qui est abandonnée comme vous. Les larmes ont leur sympathie, la faim est fraternelle. Ceux qui meurent ensemble, le ventre vide, se serrent étroitement la main. Je suis restée 5 semaines dans la chambre froide et triste en face de Laurence. Je ne voyais qu'elle au monde. Elle était pour moi l'univers, la vie, l'affection. Du matin au soir, j'avais devant les yeux ce visage où je croyais surprendre par instant un rapide sentiment d'amitié. Et moi, j'étais nue et faible. Je vivais dans ma couverture, en dehors de la société, ne pouvant même aller chercher ma part de soleil. Je n'espérais plus en rien. J'avais borné ma vie à ces 4 murs noirs, à ce coin du ciel que je voyais entre les cheminées. Je m'étais enfermée dans mon cachot. J'y avais enfermé mes pensées, mes désirs. Je ne sais si vous entendez bien cela. Un jour, n'ayez pas de chemise et vous comprendrez que l'homme puisse faire un monde vaste et plein du lit sur lequel il est couché. C'est alors que j'ai rencontré une femme en allant de la fenêtre à la porte. Laurence, étendue sur le lit, me regardait marcher pendant des heures entières. À chaque allée et venue, je passais devant elle. Je trouvais ses yeux qui me suivaient tranquillement. Je sentais ce regard attaché sur moi. J'étais comme soulagée dans mon ennui. Je ne saurais dire quelle intime et étrange consolation je prenais à me savoir regardée par un être vivant, par une femme. C'est de ces regards que doit dater mon amour. Je m'apercevais pour la première fois que je n'étais pas seule. Je goûtais une profonde satisfaction à découvrir une créature à mon côté. Cette créature ne fut sans doute d'abord qu'une amie. Il m'arriva de m'asseoir au bord de la couche, de causer, de pleurer sans cacher mes pleurs. Laurence, que mon dénûment devait apitoyer, me répondit, essuya mes larmes. Elle s'ennuyait à mourir, elle aussi. Le silence, la froideur, à certains moments, finissaient par lui peser. Sa parole me parut plus douce. Ses gestes me semblèrent plus caressants. Elle redevint presque femme. À ce point, frère, je fus envahie tout d'un coup. Ma vie allait se rétrécissant chaque jour. La terre fuyait. Paris, la France, vous-même, mes pensées et mes connaissances, rien n'était plus. Laurence résumait pour moi Dieu et l'être, l'humanité et la divinité. La chambre où elle se trouvait avait un horizon démesuré. Je me sentais hors du monde, presque dans la mort. Je ne songeais plus que je pusse un jour descendre dans la rue dont le bruit montait jusqu'à moi. Et j'avais si peu conscience de la vie qu'il m'était venu la pensée de vivre sans manger. Il me semblait que Laurence et moi, nous étions autre part, perdus, séparés des vivants, transportés dans un coin inconnu au-delà des temps et des espaces. Nous n'aurions pas été plus seuls au fond de l'infini. Un soir, comme le crépuscule venait, emplissant la chambre d'une ombre transparente, je marchais avec lenteur, allant toujours de la porte à la fenêtre. Dans l'obscurité croissante, je voyais la tête pâle de Laurence posée sur ses cheveux noirs dénoués. Ses yeux sombres avaient de vagues reflets, et elle me regardait ainsi, fortement. Belle de souffrance. Je me suis arrêtée. Je l'ai contemplée. Je ne sais ce qui s'est passé en moi. Ma chair a été secouée. Mon cœur s'est ouvert. Un grand tremblement m'a pris. Je suis allée en frissonnant serrer Laurence dans mes bras. Je l'aimais. J'aimais Laurence de toute la force de mon abandon et de ma misère. Souffrir la faim et le froid, être vêtu d'un lambeau de laine, se sentir délaissé de tous, et avoir là une femme à presser contre sa poitrine, à aimer d'un amour désespéré. Tout au fond de l'infamie, j'avais trouvé une amante qui m'attendait. Maintenant, dans le gouffre, loin de la lumière, nous étions seuls à nous embrasser, à nous serrer l'un contre l'autre, ainsi que des enfants qui ont peur et qui se rassurent en se cachant mutuellement la tête dans le sein. Quel silence autour de nous et quelle nuit! Comme il fait bon aimer dans la solitude, dans ces déserts du désespoir où ne pénètre plus aucun bruit de la vie. Je me suis abîmée au fond de cette félicité suprême. J'ai aimé Laurence avec la passion caressante que le moribond doit mettre à aimer l'existence qui lui échappe. J'ai passé 8 jours dans une sorte d'extase douloureuse. J'étais tentée de boucher la fenêtre, de vivre dans les ténèbres. J'aurais voulu que la chambre ne fût pas plus grande que la dalle où nous posions les pieds. Je ne me trouvais point assez misérable. Je souhaitais quelque effroyable malheur qui me jeta à Laurence plus nue et plus sanglant. Mes journées s'écoulaient à m'enfoncer dans mon amour et dans ma misère. Et voilà que j'ai aimé le froid et la faim, la chambre sale, la crasse des murs et des meubles. J'ai aimé la robe de soie bleue, cette loque lamentable. Mon cœur se fendait de pitié lorsque Laurence était devant moi, ce haillon au dos. Je me demandais avec anxiété par quel baiser, par quelle caresse surhumaine, je pourrais bien lui montrer que je l'aimais dans sa pauvreté. Moi, j'étais heureux de n'être pas couvert. J'avais plus froid, je souffrais davantage. Je me souviens de ces premières journées comme d'un songe. Je vois la mansarde plus en désordre, plus noire que de coutume. Je sens cet air épais et étouffant que la fenêtre ne renouvelait pas. Je nous aperçois, pareils à des ombres, allant dans nos haillons, nous embrassant, vivant en nous. Oui, je l'aime avec emportement. Je m'interroge, et mon être entier me conte l'horrible histoire, me disant comment cela s'est fait. J'ai agrandi la blessure. Maintenant que j'ai fouillé en moi, maintenant que je connais la raison et la profondeur de mon amour, je sens que j'ai plus de fièvre, une passion plus âpre et plus folle. Tout à l'heure, je me révoltais à la pensée d'aimer Laurence. Mes fiertés sont mortes, car cette idée ne me vient plus. Je suis descendue jusqu'à Laurence. Je la comprends maintenant. Je ne veux pas qu'elle soit autre. Il y a une joie malsaine à se dire qu'on est dans la fange, qu'on y est bien et qu'on y reste. J'embrasse cette femme avec d'autant plus d'emportement qu'elle est plus vile et plus souillée. Il y a, je le sens, du désespoir, une sorte de raillerie amère dans mon amour. J'ai l'ivresse du mal, la démence de l'abandon et de la faim. Je me vautre largement en pleine ordure pour insulter à la lumière dont mon âme est affolée et dans laquelle je ne puis monter. N'ai-je pas parlé de rédemption? Je voulais que Laurence redevînt vierge. La sotte histoire! Il était bien plus simple que je devinsse indigne. Aujourd'hui, nous nous aimons. La misère nous a fiancés et nous nous sommes mariés dans l'agonie. J'aime Laurence, laide et impure. J'aime Laurence dans ses lambeaux de soie, dans son affaissement de brute. Je ne veux pas d'une autre Laurence. Je ne veux pas d'une innocence, âme blanche et visage rose. Je ne sais pas ce que pense ma compagne, si mes baisers la réjouissent ou la fatiguent. Elle est plus pâle, plus grave. Les lèvres serrées, les yeux agrandis, la face muette, elle me rend mes caresses avec une sorte de force contenue. Par instant, elle paraît lasse, comme si elle était découragée de chercher quelque chose qu'elle ne trouve point. Mais bientôt, elle semble se remettre à la besogne et chercher de nouveau, me regardant en face, ses mains à mes épaules. D'ailleurs, elle a toujours le même corps brisé, la même âme obscure. Elle dort toujours les yeux ouverts et s'éveille en sursaut lorsque je pose mes lèvres sur les siennes. Au premier embrassement, elle a paru étonnée. Puis, pendant 2 semaines, elle a vécu une vie plus jeune, plus active. Depuis quelques jours, elle est retombée dans son éternel sommeil. Que m'importe? Je ne me sens pas encore le besoin que Laurence m'aime. J'en suis à cet égoïsme suprême qui, en amour, se contente de ses propres tendresses. J'aime, je ne désire rien de plus. Je m'oublie sur le sein de cette femme. Je me repose dans cette dernière consolation. Chapitre 20. Hier, il y a eu soirée chez Jacques. Paquerette est venue dans l'après-midi nous dire que nos voisins nous attendaient à 11 heures pour souper. Cloué au lit, je n'ai cependant pas voulu refuser, désireux de procurer à Laurence quelques distractions. Restés seuls, nous avons débattu la grande question du pantalon. Il a été décidé que Laurence me taillerait une sorte de culotte courte dans un morceau de serge verte qui est là de traîner sur le carreau. Elle s'est mise à l'œuvre et 2 heures après, j'étais costumée en débardeur, chemise d'un blanc douteux et lambeaux de damas à la ceinture. Laurence a ensuite nettoyé sa robe bleue autant que possible avec un chiffon mouillé. Elle l'a repassée en tendant l'étoffe et en la frottant sur un de ses genoux. Elle a même poussé les réparations jusqu'à coudre autour des manches et du corsage une petite dentelle blanche, jaunie et fripée. Notre entrée a été triomphale. Jacques et Marie ont feint de croire à une plaisanterie. Ils nous ont applaudis, comme des acteurs qui atteignent l'effet qu'ils veulent produire. J'avais quelque honte. Je ne me suis sentie à l'aise que lorsqu'on ne s'est plus occupé de ma culotte courte en serge verte. Nous avons trouvé là Paquerette, installée dans un fauteuil. Je ne sais comment cette petite vieille a fait pour pénétrer chez Jacques, qui est un garçon froid et peu causeur. Elle a une souplesse de serpent, une voix mielleuse et chevrotante qui force les portes les mieux fermées. D'ailleurs, elle paraissait chez elle. Elle s'étalait avec dévotion, ramenant ses mains sèches sur ses jupes et renversait la tête à demi, ouvrant et fermant ses yeux gris perdus dans les rides de son visage. Elle paraissait savourer à l'avance les friandises posées à son côté sur un guéridon. Marie, qui s'était dressée à notre arrivée, s'est assise de nouveau dans un angle du canapé. Les rougeurs de ses joues luisaient plus vives et elle riait, montrant ses dents blanches. Jacques, debout devant la cheminée, l'écoutait avec complaisance, grave toujours, mais affectueux, presque souriant. On nous avait avancé des chaises. La chambre était vivement éclairée par 2 candélabres de 5 bougies chacun posés sur le guéridon. Ce guéridon, encombré de bouteilles et d'assiettes, avait été poussé contre le mur pour faire place en attendant qu'on lui fît occuper le milieu de la pièce. Les rideaux du lit étaient tirés. Le parquet, les étoffes, les meubles semblaient avoir été brossés et lavés avec soin. Nous étions en plein luxe, en plein festin. J'allais assister, pour la première fois, à un de ces soupers dont il m'est arrivé, jadis, de rêver en provincial. Je me trouvais calme, reposé. Laurence souriait, j'étais heureux de sa joie. Il y a dans l'éclat des bougies, dans la vue des bouteilles rougissantes, d'assiettes pleines de gâteaux et de viande froide, dans la sensation d'une chambre close, lumineuse, tiède de parfums indéfinissables, une sorte de bien-être physique qui endort la pensée. Ma compagne, les lèvres ouvertes, retrouvait sans doute là des senteurs connues. Moi-même, je sentais le sang couler plus chaud et plus rapide dans ma chair. J'éprouvais un besoin de rire et de boire, sollicité par mon corps que j'entendais vivre. D'ailleurs, la chambre était tranquille, les éclats de gaieté adoucis, l'orgie honnête et décente. Nous avons bu un verre de madère, causant avec le plus grand calme. Cette paix m'impatientait, j'étais tentée de crier. Les 2 jeunes femmes avaient pris place aux côtés de Paquerette, parlant à voix basse. J'entendais la voix cassée de la vieille comme un murmure, tandis que Jacques m'expliquait la raison du gala. Il venait de passer heureusement un examen et célébrait cet événement. Il m'a paru plus expansif, moins homme pratique. Il s'abandonnait davantage, oubliant de mettre en avant sa position future, allant même jusqu'à parler de sa jeunesse. Jacques, pour dire le vrai, était gris de joie. Il consentait à faire le fou parce qu'il venait de monter un échelon de plus vers la sagesse. On s'est enfin mis à table. J'attendais cet instant. J'ai empli mon verre et j'ai bu. J'avais grand faim, vivant de croûte. Mais je dédaignais les gâteaux et les viandes froides. Je m'adressais au vin, blanc ou rouge. Je ne buvais pas par besoin d'ivresse. Je buvais pour boire, parce qu'il me semblait que j'étais là pour vider mon verre. Je me suis acquittée de cette besogne avec conscience, et j'ai éprouvé de la joie à sentir mes membres s'alanguir peu à peu et ma pensée se troubler. Au bout d'une demi-heure, les flammes des bougies ont pâli et se sont étalées. La chambre est devenue toute rouge, d'un rouge effacé et vacillant. Ma raison, qui chancelait, s'est raffermie d'une façon étrange. Elle a eu une effrayante lucidité. J'étais ivre. Je devais avoir sur la face le masque hébété, le sourire idiot des ivrognes. Mais en moi, tout au fond de mon intelligence, je me sentais calme et sensé. Je raisonnais en toute liberté. C'était là une ivresse terrible. Je souffrais de l'affaissement de mon corps, qui se mourait d'accablement, et de la vigueur de mon âme, qui voyait et jugeait. Au bruit des verres et des fourchettes, tandis que les femmes et Jacques riaient, causant entre eux, moi, un coude sur la table, je les regardais. Leurs visages, leurs paroles m'arrivaient dans une sensation nette et claire, douloureuse d'acuité et de pénétration. Mon amour était toujours en moi, troublant et changeant mon être. Mais le vieil homme, le philosophe raisonneur, venait de se réveiller. Je me plaisais dans mon ivresse et dans Laurence, tout en ayant conscience de ces deux fanges. Jacques était assis à ma gauche. Je ne sais s'il avait réussi à se griser. Toutefois, il feignait la déraison. En face, j'avais les trois femmes. Marie à ma droite, puis Pâquerette, puis Laurence, qui se trouvait à la gauche de Jacques. Mes regards restaient attachés sur ces trois femmes, qui m'apparaissaient avec des visages et des sons de voix nouveaux. Je n'avais plus revu Marie depuis le jour où je l'avais trouvée sur le canapé, blanche et languissante. Alors, on pouvait la prendre pour une jeune fille se mourant de virginité. Maintenant, ses cheveux blonds dénoués, la tête en feu, d'un violet pâle aux joues, elle agitait ses bras nus avec la fièvre d'une enfant ignorante qui marche à sa première volupté. Je me perdais dans le flamboiement de ce jeune front. Je ne sais quoi de poignant s'échappait de cette créature, qui s'éveillait de son agonie pour rire et boire, pour essayer de goûter les angoisses voluptueuses de cette vie qu'elle avait vécue sans le savoir, dans son innocence de petite fille. À la voir, échevelée et frémissante, les yeux brûlants, les lèvres humides, il me semblait, dans l'effarement de mon ivresse, apercevoir une moribonde qui, sur son lit de mort, entend tout à coup la voix de ses sens et de son cœur, et qui, hésitante, ne sachant que faire en ce moment suprême, ne veut cependant pas mourir avant d'avoir contenté ses vagues aspirations. Laurence s'était animée, elle aussi. Elle était presque belle d'impudeur. Sa face avait pris une franchise de vice qui donnait à chacun de ses traits une suprême insolence. Le visage entier s'était allongé. De grands plans carrés, traversés de lignes profondes, coupaient nerveusement les joues et la gorge en masses fortes et dédaigneuses. Elle était pâle, et quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, à la racine de ses cheveux qui se dressaient droit sur son crâne bas et écrasé. Vautrée dans son fauteuil, la face morte et convulsée, les yeux noirs et vivants, elle m'apparaissait comme une image terrible de la femme qui a pesé dans sa main toutes les voluptés et qui les refuse maintenant, les trouvant trop légères. Par moments, je croyais qu'elle me regardait en haussant les épaules. Elle souriait de pitié, je l'entendais me dire « Tu m'aimes, et que veux-tu de moi? Mon cœur est défunt, je n'ai jamais eu de cœur. » Quant à Pâquerette, Elle était plus maigre, plus ridée. Sa figure, semblable à une pomme séchée, semblait s'être fripée encore et avait pris une teinte pâle de rouge brique. Les yeux n'étaient plus que deux points brillants. Elle hochait la tête d'une façon douce et aimable, bavardant comme une serinette aigre. Elle jouissait d'ailleurs d'un calme parfait, bien qu'elle eût mangé et bu à elle seule autant que nous trois ensemble. Je les regardais toutes trois. Le trouble de mon cerveau qui les grandissait les faisait osciller étrangement devant moi. Je me disais que toute la débauche était là, la débauche mûre dans sa franchise, la débauche qui a vieilli et qui vit en cheveux blancs de son infamie passée. Pour la première fois, je voyais ces femmes ensemble, côte à côte. À elles seules, elles étaient tout un monde. Paquerette dominait de toute sa vieillesse, elle présidait, elle appelait « mes filles » les deux malheureuses qui la caressaient. Il y avait toutefois cordialité, fraternité entre elles. Elles parlaient en sœurs, sans songer à leur différence d'âge. Mes regards voilés confondaient les trois têtes. Je ne savais plus sur quel front étaient les cheveux blancs. Et nous étions là, en face, Jacques et moi. Nous étions jeunes, nous célébrions un succès de l'intelligence. J'ai été sur le point de sortir, frère, et de courir jusqu'à vous. Puis j'ai éclaté de rire, tout haut sans doute, car les femmes m'ont regardé, étonnée. Je me suis dit que tel était désormais le monde où je devais vivre. J'ai fermé les yeux, et j'ai vu des anges, vêtus de longues robes bleues, qui montaient dans une lumière pâle, pleine d'étincelles. Le souper avait été fort gai, on chantait et on causait. Il me semblait que la chambre était pleine d'une fumée épaisse qui me serrait à la gorge et me piquait les yeux. Puis, tout a tourné. J'ai cru que j'allais m'endormir. Lorsque j'ai entendu une voix lointaine qui criait, avec le son d'une cloche fêlée, « Il faut nous embrasser ! Il faut nous embrasser !» J'ai ouvert les yeux à demi, et j'ai vu que la cloche fêlée était Paquerette, qui venait de monter sur son fauteuil. Elle agitait les bras et ricanait. « Jacques ! Jacques ! » criait-elle. « Embrassez Laurence ! C'est une bonne fille que je vous donne à désennuyer. Et toi, Claude, pauvre enfant endormi, embrasse Marie qui t'aime et te tend ses lèvres. Allons, embrassons-nous, embrassons-nous, vous allez voir. » Et la petite vieille a sauté à terre. Jacques s'est penché et a donné un baiser à Laurence qui le lui a rendu. Je me suis tournée alors vers Marie qui, les bras tendus, la tête renversée, m'attendait. J'allais la baiser au front lorsqu'elle a plié encore le cou en arrière et m'a tendu sa bouche. La lumière des bougies tombait sur sa face. Mes yeux étant sur ses yeux, j'ai aperçu au fond de son regard une clarté d'un bleu pur qui m'a paru être son âme. Comme j'étais courbée, regardant l'âme de Marie, j'ai senti des lèvres froides se poser sur mon cou. Je me suis tournée. Paquerette était là, riant, frappant ses mains sèches. Elle avait embrassé Jacques et venait de m'embrasser à mon tour. Je me suis essuyé le cou. 7 heures sonnaient. Une clarté pâle annonçait le jour. Tout était dit. Nous n'avions plus qu'à nous séparer. Comme j'allais sortir, Jacques m'a jeté sur l'épaule un pantalon et un paletot que je n'ai pas même songé à refuser. Paquerette a monté devant nous, allongeant son bras maigre qui tenait une chandelle. Lorsque nous avons été couchés, j'ai songé aux embrassements que nous avions échangés. J'ai regardé Laurence, j'ai cru voir ses lèvres rouges des lèvres de Jacques. J'avais toujours devant moi, dans l'ombre, la lueur bleue qui brûlait au fond des yeux de Marie. Je ne sais quel frisson m'a pris aux pensées vagues qui me sont venues, et je me suis endormie d'un sommeil fiévreux. En dormant, je me sentais au cou la sensation froide et pénible de la bouche de Paquerette. Je rêvais que je me passais la main sur la peau et que je ne pouvais enlever ces deux lèvres qui me glaçaient.